de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le journal d'aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques événements importants, entre autres le ministère de la Jeunesse et des Sports indonésien. La Malaisie devrait s'excuser officiellement. Le mouvement de Bank Indonésie visant à autonomiser l'économie pesantren, pensionnat islamique est apprécié des membres de la RDP. Buleleng promo le tourisme marin à travers l'action artistique de Tejakula. KKP augmentera son objectif d'exportation de produits de la mer à 84,5 trillions rupiah. Mon cher Jolitar, voici les nouvelles en complet. Menpora, la Malaisie devrait s'excuser officiellement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainuddin Amali, a déclaré que le gouvernement malaisien avait présenté des excuses concernant l'incident de mauvais traitement infligé à des supporters indonésiens lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de 2022, qui avait rassemblé les équipes nationales indonésiennes et malaisiennes au stade national Bukit Jalil, mardi 19 novembre. Selon lui, les excuses présentées sur les réseaux sociaux Twitter ne suffisaient pas. Zainuddin, en train de regarder le spectacle de marionnettes sur les ombres à Surabaya, Java Oriental, a déclaré dimanche matin que le gouvernement malaisien devrait présenter ses excuses à la population indonésienne. En outre, selon Zainuddin, après la persécution, le ministère indonésien de la Jeunesse et des Sports a envoyé une lettre officielle au gouvernement malaisien pour enquêter de manière approfondie sur cet événement, qui réclame également une solution égale aux auteurs de la persécution et encourage la Malaisie à présenter ses excuses à la population indonésienne. Le mouvement de BI visant à autonomiser l'économie pesantren ou bien pensionnat islamique est apprécié des membres de la RDP. La décision prise par la Banque d'Indonésie en faveur de l'autonomisation de l'économie pesantren ou bien pensionnat islamique dans les pays a été saluée par les membres de la Commission 11. RPR RI Anis Biarwati. Dans une déclaration écrite reçue à Jakarta dimanche, Anis Biarwati a souligné qu'il était important d'encourager l'économie pesantren afin que les internats existants puisse être indépendant et améliorer la vie des étudiants et de la communauté environnante. Parmi les programmes financés par le programme social de la Banque d'Indonésie à Pondok Pesantren figurent les serres, la culture hydroponique, l'achat de machines de confection, de broderie et de couture, le traitement de l'eau de boisson, l'achat de machines graphiques et d'imprimantes, l'achat de machines de fabrication d'aliments pour poissons-chats, de poissons d'échiquette et la fabrication d'enclos pour chèvres. Auparavant, Indonésie et 110 centaines de toute Indonésie avaient initié la création d'une société holding dans un environnement centraine destiné à être le moteur de l'économie et des finances de la charia. Buleleng promeut le tourisme marin à travers l'action artistique de Tejakula. Les habitants du sud-district de Tejakula dans la régence de Buleleng à Bali promeuvent le potentiel du tourisme maritime, devenu la capitale principale pour la création d'une zone touristique internationale au nord de Bali par le Festival d'action artistique Tejakula Buleleng Bali Dive Festival, ou bien A7BBDF. La déclaration écrite reçue samedi indiquait qu'A7BBDF 2019 a été organisée pendant 4 jours du 21 au 24 novembre 2019, animé par une variété d'événements allant des défilés d'art, des stands culinaires, des expositions d'artisanat, des performances et des attractions des artistes de Buleleng. Putu Ngurah, le coordinateur du calendrier des événements de Bali du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, lors de l'ouverture de l'A7BBDF à Tejakula a récemment déclaré que les mesures prises par le gouvernement de la régence de Buleleng pour faire du tourisme de Buleleng une zone touristique de classe internationale ont été appréciées par le ministère du Tourisme et de la Créative Économie. Putu Ngurah espère qu'il y aura un soutien de tous les éléments de la communauté afin de collaborer avec le gouvernement pour faire progresser les destinations touristiques du nord de Bali. L'un d'entre eux consiste à préserver les atouts touristiques existants. KKP augmentera son objectif d'exportation de produits de la mer à 84,5 trillions roupias. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, KKP, prévoit d'augmenter l'objectif d'exportation des produits de la mer à 6 milliards de dollars américains, soit environ 84,5 trillions roupias en 2020. Le directeur du marketing de la Direction générale du renforcement de la compétitivité des produits de la mer et de la pêche, Mahmoud Dimanche, 24 novembre, a affirmé que cette année, l'objectif d'exportation de produits de la mer a atteint 5,5 milliards de dollars américains. Bien que cet objectif n'ait pas encore été atteint, M. Mahmoud a affirmé que cette augmentation avait été réalisée en raison de l'expansion prévue des exportations indonésiennes de fruits de mer vers de nouveaux pays. L'expansion des exportations devrait augmenter la valeur des exportations de fruits de mer. Une société indonésienne remporte le prix de notation durable asiatique. La société papetière Asia Pulp and Paper, APP Sinarmas, a remporté le prix pour la catégorie argent à l'événement Le rapport de développement durable en Asie 2019, qui est conforme à la vision du gouvernement selon laquelle le monde des affaires doit appliquer des principes du commerce durable. Elim Sritaba, directeur, en charge du développement durable chez APP Sinarmas, a déclaré dans une déclaration écrite reçue à Jakarta que l'élection d'APP Sinarmas pour la 7e fois témoigné de son engagement à mettre en œuvre des normes de reporting strictes et transparentes pour ses pratiques commerciales durables. Elim Sritaba a expliqué qu'APP Sinarmas avait remporté cette année un prix dans la catégorie argent et qu'elle était en concurrence avec 50 sociétés et autres organisations en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, aux Philippines et au Bangladesh pour obtenir la meilleure note. L'éducation et le tourisme sont les piliers de l'économie de Yogyakarta 2020. La ville de Yogyakarta, qui ne dispose pas de ressources naturelles abondantes en source de revenus locaux, continuera à compter sur le secteur des services en tant que force économique en 2020, notamment dans les secteurs de l'éducation et du tourisme. Le maire adjoint de Yogyakarta, Heru Purwadi, a annoncé dimanche à Yogyakarta que seuls deux secteurs constituaient le pilier de la ville de Yogyakarta, à savoir l'éducation et le tourisme. Selon Heru, un certain nombre de partis, y compris des universitaires, ont mis en garde sur le potentiel d'une récession économique mondiale en 2020, de sorte que le gouvernement, y compris les gouvernements locaux, doit faire diverses prévisions pour minimiser l'impact de la récession sur la croissance économique de la région. Par conséquent, Heru invite tous les groupes communautaires à continuer de faire en sorte que le tourisme à Yogyakarta soit intéressant à visiter. Yogyakarta devrait être en mesure de devenir une destination touristique majeure. Par conséquent, même si la baisse est globale, les touristes se rendant à Yogyakarta ne diminueront pas. Serge Littar, c'était les nouvelles.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La polémique sur le discours de la prolongation du mandat présidentiel ». Le discours sur la proposition de prolonger le mandat du président s'est réchauffé. Ce discours est lié au projet d'amendement limité à la Constitution 1945. Le discours qui circule est lié au changement du mandat présidentiel. Il y a ceux qui proposent que le mandat soit d'une seule période de 8 ans et il y a aussi ceux qui proposent une extension à 3 périodes. Conformément aux dispositions en vigueur, le président et le vice-président exercent leur fonction pendant 5 ans et peuvent être réélus pour un mandat. Ainsi, le président et le vice-président peuvent servir un maximum de 10 ans en 2 périodes, comme stipulé à l'article 7 de la Constitution 1945. La proposition de changer le mandat du président n'est pas la première fois. Auparavant, cette question est également apparue, ce qui a par la suite été déterminé par un règlement ou non. Cette question a été rejetée par plusieurs partis, notamment les partis politiques. Le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, M. Bambang Susatyo, a déclaré que le mandat du président pendant 2 périodes et l'élection présidentielle directe par le peuple étaient à droite. Le Parti démocrate indonésien de lutte, ou PDIP, parti majoritaire au Parlement et soutenant le président Joko Widodo, estime que le mandat présidentiel actuel est encore idéal et qu'il n'est pas nécessaire de le changer. M. Andi Matalata, l'autre responsable du Parti Golkar, a déclaré que le discours de 3 périodes de mandat présidentiel pourrait conduire à un régime autoritaire. Selon lui, limiter le mandat du président à l'heure actuelle est l'essentiel de la réforme et de l'amendement. Le parti de l'opposition, le Parti de la Justice Prospère ou PKS, considère le discours comme une proposition dangereuse. PKS a déclaré que la lutte pour limiter le mandat du président à deux périodes a été obtenue par une réforme sanglante. Le président de la faction Gerindra du MPR, M. Ahmad Riza Patria, a déclaré que les deux mandats de leadership étaient des périodes idéales pour les mandats présidentiels. Il estime que la décision était finale parce qu'il est déjà réglementé dans la Constitution 1945. Selon Ahmad Riza Patria, il n'est pas nécessaire de changer le mandat présidentiel de deux périodes parce qu'il est conforme à l'esprit de réforme, le pouvoir et l'autorité doivent être limités. Le mandat du président de deux périodes de 5 ans chacun est le résultat de réformes sanglantes 1998 visant à renverser le gouvernement de l'ordre ancien. Le président Suharto était président pendant 32 ans. Détermination du mandat de deux périodes a fait également par la discussion approfondie, c'est-à-dire que le système qui a été convenu est le plus idéal. Prolonger le mandat du président de trois périodes revient à proposer un retour au système de l'ordre ancien où le président aura tendance à être autoritaire. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la rubrique « L'histoire d'aujourd'hui » avec moi Audrey. Nous commençons par l'événement du 25 novembre 1945. L'Association des enseignants indonésiens a été créée. La Journée nationale des enseignants a été instituée depuis 1994, conformément à la décision du président, conformément au décret présidentiel numéro 78 de 1994 et à la loi numéro 14 de 2005 sur les enseignants. Le 25 novembre a été choisi comme Journée nationale des enseignants et commémoré à l'occasion de l'anniversaire de l'Association des enseignants indonésiens, PGRI. Auparavant, l'Association des enseignants indonésiens portait le nom d'Association d'enseignants des Indes néerlandaises, PGHB, fondée en 1912 par le gouvernement colonial néerlandais, puis est devenue l'Association des enseignants indonésiens, PGI, en 1932. L'initiation de la Journée des enseignants commémorera certainement les services et les luttes des enseignants qui ont travaillé dur pour se battre pour l'éducation en Indonésie. Chers amis, passons maintenant aux événements du 25 novembre 1975. L'indépendance du Suriname. Lors de la conférence d'une table ronde en 1961, des représentants du Suriname dirigés par le premier ministre Johan Adolf Pengel ont exigé la formation d'un gouvernement autonome. La demande est devenue de plus en plus forte après la création de plusieurs partis politiques formés au cours de cette décennie. Et plus forte a été la demande pour que le Suriname reçoive la pleine liberté le plus rapidement possible. Cette demande a été prise au sérieux lors de la tenue d'une conférence aux Pays-Bas en 1970. Cette conférence avait pour but de discuter des préparatifs en vue de la libération de Suriname et de constituer un cabinet composé de représentants des partis. Le Suriname est ensuite devenu un pays indépendant depuis le 25 novembre 1975. Néanmoins, l'économie du pays nouvellement indépendant est restée fortement dépendante de l'aide au développement néerlandais. « Chers auditeurs, nous terminons avec l'événement du 25 novembre 2000, le séisme Baku. Le samedi 25 novembre 2000 à 22h10, heure locale, un séisme d'une magnitude de 7.0 sur l'échelle de Richter a secoué Bakou en Azerbaïdjan. Le séisme a été suivi 3 minutes plus tard d'un séisme d'une magnitude de 5.9 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre est le plus puissant des 160 dernières années, notamment depuis le tremblement de terre de 1842. On estime qu'il a été causé par des mouvements tectoniques actifs dans les deux parties principales de la croûte terrestre, la plaque de Tourance et la plaque de pliage de Copédan-Caucase. Environ 26 personnes ont été mortes et 412 personnes ont été blessées dans ce séisme. Chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
C'était la chanson intitulée Jumpa Marina, chantée par Trinity. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde. et voici donc mon Indonésie. Chers amis de l'antenne, voici donc mon Indonésie et pour le titre, la licence d'investissement Rangdu à BKPM. Le président Joko Widodo a décidé de renvoyer toutes les autorisations de licence d'investissement du ministère au Conseil de coordination des investissements BKPM. Le secrétaire du cabinet, Pramono Anung, a déclaré que, comme suivi, il a été demandé à tous les ministres de révoquer 40 règlements ministériels considérés comme freinant les investissements et la facilité des affaires au moins à la fin du mois de décembre 2019. Après avoir assisté à une réunion limitée sur l'accélération de la facilité de faire des affaires au bureau du président à Jakarta jeudi dernier, Pramono Anung a déclaré que sa parti avait adressé une lettre officielle à BKPM conformément aux instructions du président Joko Widodo. Encore une fois, l'autorité de délivrance des licences devient l'entière responsabilité de BKPM. Selon Pramono, cette décision vise à améliorer la facilité d'investissement et de commerce en Indonésie. Dans un rapport de la Banque mondiale publié en octobre dernier, dans le classement des 73 vers le bas de rang 72 en 2018, le gouvernement fixe des objectifs à placer l'Indonésie au 50e rang en ce qui concerne la facilité de faire des affaires en 2021, puis à la 40e des années suivantes. Ainsi, le président Joko Widodo estime qu'il est nécessaire de réformer les licences. Pramono a expliqué que les licences sont accordées à l'une des portes du BKPM car dans un tel climat mondial, l'Indonésie ne pourrait pas progresser si les obstacles au sein du gouvernement existaient toujours. Pendant ce temps, chef de BKPM, Bahlil Lahadalia, a souligné que BKPM avait commencé à changer le paradigme. Jusqu'à présent, pour obtenir un permis, les investisseurs sont passés par certains ministères avec l'assistance de BKPM. Cette affaire est considérée comme difficile. Sur les instructions du président Joko Widodo, les investisseurs peuvent investir en Indonésie. Ils n'ont plus besoin de passer par les ministères pour obtenir un permis leur permettant de choisir n'importe quelle région d'Indonésie où investir. En tant que nouveau responsable de BKPM, Bahlil a ajouté qu'il s'agissait d'un investissement non exécuté représentant 608 millions de rupiah. Après un mois de mandat ou jusqu'à la semaine dernière, un investissement de 89 millions de rupiah a été exécuté. Bahlil a également souligné que le gouvernement créerait un système de guichet unique pour la gestion des permis de navires. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Rasa yang indah yang bisa. suka kadang duka asmara bisa membuat semua
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Asmara par Aura Kasih. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous invitons à présenter le monument Bajra Sandi à Bali. Chers auditeurs, l'objet touristique de Bajra Sandi est un monument à Denpasar, Bali. Le monument a été construit et dédié à la lutte du peuple de l'île de Bali. Le monument se trouve en face du bureau du gouverneur et du bâtiment de la Chambre des représentants régionaux de Bali, précisément à Renon. La construction du monument a commencé en 1987 à l'initiative de l'ancien gouverneur de Bali, Ida Bagus Mantra. Le 14 juin 2003, la présidente Megawati Soekarnoputri vient d'inaugurer ce monument. Le monument Bajra Sandi, enclos des héros d'honneur sur l'île de Bali, est aussi un symbole de la préservation de l'âme des guerrières balinées de génération en génération, est un symbole d'esprit pour la défense de l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie. La dessinée du monument est Ida Bagus Gedeyatnya, une architecte qui a remporté le concours de l'architecture des monuments. Le monument qui a une signification la journée de l'indépendance d'Indonésie le 17 août 1945 a été conçu avec 17 portes d'entrée, 8 piliers principaux et une hauteur de 45 mètres. Chers auditeurs, le nom de Bajra Sandi provient de Bajra et Sandi. Bajra signifie genta ou grosse cloche et sandi signifie saint. Si nous voyons la forme du bâtiment, le monument ressemble à genta utilisé par les prêtres hindous pour prononcer un mantra dans un rituel de prière. Le monument Bajra Sandi possède des installations telles qu'une bibliothèque, un étang à poissons, de l'artisanat et des toilettes. Pour entrer dans le monument, les visiteurs doivent payer un billet d'entrée de 25 000 rupiah pour un adulte et de 5 000 rupiah pour un enfant. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine Culture Report ce soir avec comme titre le monument Bajra Sandy à Bali. Demain, nous nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant encore. À bientôt! Chers auditeurs, c'était la chanson de trois compositeurs intitulée « Belum Tentu ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'Indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est cuaca, je répète, cuaca, ou en langue française, climat. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation et un pour titre cuaca ou en langue française climat. Tony est dans la région du temple Prambanan avec un guide touristique. Il parle du climat.
Bagaimana cuaca di London sekarang?
Oh, sangat dingin dan sedang turun salju.
Oh, sedang musim dingin ya?
Iya, benar.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir cuaca, cuaca ou en français climat. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang? En français, quel climat fait-il à Londres maintenant? Sangat dingin dan sedang turun salju. Sangat dingin dan sedang turun salju. En français, très froid et il neige. Oh, sedang musim dingin ya. Oh, sedang musim dingin ya. En français, oh, c'est l'hiver. Ya, benar. Ya, benar. En français, oui, c'est vrai. Sejuk. Sejuk, en français frais. Cerah. Cerah, en français brillant. Berawan. Berawan, en français nuageux. Hujan. Hujan, en français il pleut. Si vous voulez connaître la condition météorologique d'un lieu, par exemple à Londres, vous pouvez dire Bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang? Ou en français, quel climat fait-il à Londres maintenant? Et si vous voulez connaître le climat d'aujourd'hui, demandez Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? Ou en français, quel climat fait-il aujourd'hui? Vous pouvez répondre à cette question en mentionnant la climatisation. Par exemple, panas, dingin, atau sejuk. Je répète, panas, dingin, atau sejuk. Ou en français, chaud, froid ou frais. Ou en mentionnant les conditions météorologiques, par exemple, cerah, cerah, en français brillant, berawan, berawan, en français nuageux, hujan, hujan, en français pluvieux, turun salju, en français neigeux. Les autres exemples, si vous sentez qu'il fait chaud, vous pouvez dire cuacanya panas. Cuacanya panas, en français, il fait chaud. Si le climat est froid, vous pouvez dire cuacanya dingin. Cuacanya dingin, en français, il fait froid. Si vous sentez qu'il fait très chaud, ajoutez le mot sekali. Sekali, après l'adjectif. Par exemple, cuacanya panas sekali. Cuacanya panas sekali. En français, il fait très chaud. Ou, cuacanya dingin sekali. Cuacanya dingin sekali. En français, il fait très froid. Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? En français, quel climat fait-il aujourd'hui? Vous pouvez répondre à cette question en disant cuacanya cerah. Cuacanya cerah. En français, il fait beau. Bagaimana cuaca di Jakarta? Bagaimana cuaca di Jakarta? En français, quel climat fait-il à Jakarta? Vous pouvez répondre, berawan dan mungkin akan hujan. Berawan dan mungkin akan hujan. En français, nuageux et peut pleuvoir. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Bagaimana cuaca di London sekarang?
Oh, sangat dingin dan sedang turun salju.
Oh, sedang musim dingin ya?
Iya, benar.
Chers amis, c'était la rubrique apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Kasihku kan bersemi, menemani muka kasih.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Milik Mousselalou, chantée par Andine. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à tous. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia. Chers auditeurs, qui ne connaissent pas la ville de Jakarta? La ville située non loin de la côte est célèbre depuis longtemps comme centre de commerce et centre du gouvernement indonésien. La chanson de Keroncong dont le titre est Bandar Jakarta décrit la beauté de la côte de Jakarta à la soirée. Les nuages ornent le ciel, les mille îles, les bateaux de pêche et les vagues se brisent sous la plage. Voilà ce dont on parle dans la chanson intitulée Bandar Jakarta. Bon, chers auditeurs, voici la chanson dont le titre est Bandar Jakarta, chantée par Toto Salmon. Thank you.
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous. Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.